Monsieur Gerald Weston. À quel point Dieu est-il réel pour vous? Dans le numéro de janvier 2021 de Tomorrow's World, j'ai écrit un article intitulé « Trois piliers de stabilité en des temps difficiles ». Je l'ai écrit pour essayer d'être très encourageant pour tout le monde, car nous vivons présentement des temps difficiles. Certes, ce n'est pas la période la plus difficile que le monde ait jamais connue, même si nos populations semblent penser que c'est le cas. En effet, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux qui vivaient alors en Europe, notamment en Allemagne, mais aussi ceux qui étaient en Russie ou en Asie du Sud-Est, tous ceux-là ont connu des temps difficiles, des temps bien plus difficiles que ce que nous vivons actuellement. Même la pandémie de 1918 a été beaucoup plus traumatisante à bien des égards, en jugé d'après le nombre de personnes qui en sont mortes. N'empêche que les gens d'aujourd'hui semblent obsédés par la difficulté et l'horreur de leur vie, alors qu'ils ont tant de choses merveilleuses à leur actif. Bien sûr, lorsque nous vivons personnellement des temps difficiles, c'est peut-être une piètre consolation d'apprendre que d'autres ont connu pire. Si j'ai écrit cet article, c'est dans le but de nous donner une base d'appui. J'y donne à nos lecteurs et à nos membres trois piliers qui pourraient nous aider dans les moments difficiles. Ces trois piliers sont les suivants. Le premier, savoir que Dieu existe et être convaincu qu'il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui se soucie de nous, qui nous aime et qui a élaboré un plan et que tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Le deuxième pilier est de prouver que la Bible est la parole de Dieu, que c'est là que se trouve la source de la connaissance et de la compréhension, non seulement à propos de Dieu, mais aussi à propos de la façon de vivre, du sens et du but de la vie. Le troisième pilier est de savoir où Dieu travaille. Oui, de prouver réellement où il travaille. Je considère personnellement que ce sont là trois piliers très importants, et je sais que nous en parlons souvent lorsque nous préparons des gens pour le baptême. Les façons de présenter les choses peuvent varier un peu selon les individus concernés, mais dans l'ensemble, ces points vont immanquablement être abordés d'une façon ou d'une autre. Particulièrement avec nos jeunes qui ont grandi dans l'Église, je veux m'assurer qu'ils comprennent bien que Dieu existe. Le croient-ils vraiment? Peuvent-ils le prouver? Ont-ils déjà été mis au défi de défendre leurs croyances? Ce qui se passe avec de nombreux jeunes lorsqu'ils vont à l'université, c'est qu'ils vont alors avoir affaire à des professeurs, notamment des professeurs de biologie, qui vont souvent dénigrer Dieu, se moquer de lui, et parfois même le défier du poing, lui demandant de les frapper à mort s'il existe. C'est du moins le témoignage que j'ai reçu de certains jeunes qui l'ont vécu personnellement, ou encore de certains de leurs parents. Pour ma part, lorsque je fréquentais le Ventura College, j'ai pu voir comment certains étudiants, qui croyaient en Dieu au début de leurs études, ont littéralement renoncé à toute croyance dès la fin du premier semestre, et cela parce qu'un de ses professeurs avait réussi à les convaincre que Dieu n'existe pas, que nous ne sommes finalement que le produit d'une évolution, qu'il n'y a pas de base vraiment solide pour prouver que Dieu existe. Maintenant, si vous avez cette base solide, vous n'avez rien à craindre. Mais l'avez-vous prouvé à vous-même? Jeunes gens, avez-vous prouvé que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Par ailleurs, et là je m'adresse à chacun d'entre nous, sommes-nous convaincus que c'est ici que Dieu travaille? L'avons-nous prouvé? C'est très important, vous savez. Hier soir, je me suis mis à penser à certaines de ces crises que nous avons vécues dans l'Église, à certains de ces événements que nous avons vécus au cours des années. Et certains d'entre nous qui sont dans l'Église depuis des décennies ont certainement eu à relever des défis à maintes reprises. Ainsi, nous avons eu certains problèmes en 1972 et en 1974. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en 1974, à cause de problèmes qui existaient à l'époque de l'Église universelle, la Worldwide Church of God, nous avons perdu environ 30 ministres et 3000 membres. Et ces problèmes n'étaient pas imaginaires, ils étaient bien réels. Ce fut en vérité une période très difficile. Et puis, toujours dans les années 70, mais vers la fin, Nous avons eu cette apostasie qui s'est traduite par un abandon graduel de nos doctrines. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que M. Herbert Armstrong faisait une crise cardiaque, dont il est fort heureusement revenu en 1979. Il avait alors imploré Dieu de lui donner la force de remettre l'Église sur les rails, et Dieu l'a fait. Cependant, sitôt après sa mort, au début de 1986, ses successeurs n'ont pas tardé à orienter l'Église dans une direction très différente. Et ceux qui étaient présents entre 1990 et 1995 ont trouvé cette époque très troublante et difficile à gérer, car les dirigeants de l'Église disaient à présent que tout ce que nous avions cru dans le passé était faux, et que c'était dans le monde protestant que devait être notre place. Oh, ils ne l'ont pas dit en ces termes, mais c'est vraiment ce qu'ils avaient en tête, et le temps a prouvé que c'était bien là leur objectif. Finalement, certains d'entre nous sont sortis de ce groupe afin de poursuivre l'œuvre de Dieu sous la gouverne de Dr. Meredith. Pour ma part, je suis arrivé en 1995, mais voilà que, déjà quelques années plus tard, certaines personnes voulurent se débarrasser de Dr. Meredith, car ils n'aimaient pas sa façon de procéder. Nous avons alors dû faire face à cette nouvelle perturbation, et nous avons connu plusieurs autres perturbations depuis lors. N'empêche que pour moi, le fait de savoir que Dieu existe, que la Bible est la parole de Dieu, et que c'est sur elle que sont fondées les doctrines de l'Église, et le fait de savoir où trouver cette Église, cela a été pour moi une base d'appui à toute épreuve. J'ose espérer qu'il en a été de même pour certains d'entre vous, et qu'il en sera finalement de même pour tous nos membres. À nouveau, je ne veux pas vous agacer, vous les jeunes qui êtes parmi nous, mais il vous faut vraiment prouver les choses auxquelles vous croyez. Il ne suffit pas que vos parents les fassent, parce que vous pouvez trouver des millions de personnes qui ont adopté aveuglément la religion et les croyances de leurs parents en s'imaginant que tout cela est absolument correct. Notez que je parle ici spécifiquement d'adopter une religion particulière. Il y a ainsi des musulmans, des catholiques et des protestants qui grandissent en suivant une telle pratique. Ils vont prendre pour acquis que leurs parents ne se sont pas laissés tromper, et ainsi, même s'ils abandonnent temporairement la religion de leurs parents, ils vont souvent y revenir plus tard. Comprenez donc pourquoi vous êtes ici. M. Herbert Armstrong avait l'habitude d'insister sur ce point, en particulier lors des jours saints, où il débutait souvent ses sermons en posant la question « Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ici ?» C'est là une question très importante, une question qui va souvent être posée, et nous penserons « Eh bien, je sais pourquoi je suis ici, c'est parce que c'est un jour saint, ou parce que c'est un sabbat, mais est-ce que nous intériorisons vraiment ce que cela signifie ?» Et pourquoi nous sommes ici? Vous savez, il est facile de prendre ces choses pour acquises, et je veux ici parler de ces trois piliers que j'ai mentionnés précédemment. Mais ne le prenez pas à la légère. Ces trois piliers doivent être intériorisés, ils doivent devenir partie de nous-mêmes, et avec l'aide de Dieu, nous devons vivre en conséquence. Ils devront motiver notre comportement. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le premier de ces piliers. En préparant ce sermon, mon intention était initialement de me concentrer sur le troisième de ces piliers, mais, tout compte fait, nous allons plutôt nous concentrer sur le premier. Je tiens cependant à insister dès le départ que tout ceci ne doit pas simplement se limiter à un exercice intellectuel. Le fait de savoir que Dieu existe est une chose, mais, savez-vous, le diable sait aussi que Dieu existe. Et, par ailleurs, il y a quantité de gens qui savent que Dieu existe, mais... cela a-t-il une incidence sur leur comportement? Cela changera-t-il leur comportement? Encore une fois, notre étude ne doit pas se réduire à un simple exercice intellectuel. Elle doit être plus qu'un exercice intellectuel, et ce que nous ferons de cette connaissance sera d'une importance capitale. Ainsi donc, dans quelle mesure êtes-vous en admiration devant Dieu? À quel point croyez-vous que Dieu existe? Je voudrais maintenant vous parler d'un article que j'ai lu récemment dans notre revue Le Monde Demain de janvier-février 2021, celle qui affiche sur sa page couverture cette photo à propos de la grande réinitialisation, et où il est question du coronavirus et de son impact sur le projet de restructuration du monde, ce que certains tentent de faire en ce moment même. L'article dont je veux parler émane de Dr. Brian Fall. Et il a pour titre « Les œuvres de ses mains ». Je l'ai trouvé fort intéressant. Il comporte le sous-titre évocateur suivant « Câblé pour adorer ». L'auteur y aborde notamment le thème de l'admiration, de cette notion de crainte respectueuse. Ce que cet article dit m'a vraiment frappé, et je n'avais pas considéré ces choses de cette manière auparavant, et j'aimerais à présent vous en lire les deux premiers paragraphes. Voici ce que Dr. Brian Fall dit dans cet article intitulé « Câblé pour adorer ». Je cite « Il y a plusieurs milliers d'années, un jeune berger était assis dans un champ, seul, sous un ciel parsemé d'étoiles brillantes. Levant alors les yeux vers l'étendue étoilée, il fut profondément ému. C'est peut-être à la suite d'une telle nuit qu'il lui vint l'idée d'écrire ce que nous lisons dans le psaume 8, versets 4 et 5. Psaume 8, versets 4 et 5. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» C'est en effet là une question très importante. Oui, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre existence? Lorsqu'on contemple la vaste étendue de l'univers, on se rend compte à quel point nous sommes minuscules et insignifiants. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, ce que nous voyons, c'est essentiellement notre propre galaxie, les étoiles de notre propre galaxie. Cependant, munis de télescopes, nous nous rendons compte qu'il y a en fait des milliards d'autres galaxies. Il n'y a pas si longtemps, on estimait qu'il pouvait y en avoir de l'ordre de 200 milliards. On pense à présent qu'il pourrait même y en avoir près de 2000 milliards. Quand vous considérez que chacune d'elles peut contenir des milliards d'étoiles, c'est tout simplement ahurissant. David n'avait évidemment aucune idée de cela à son époque. Il ne pouvait pas savoir à quel point l'univers était grand. Mais ce qu'il envoyait était suffisant pour l'impressionner. Cela lui montrait à quel point il était petit, lui qui était assis là, en solitaire, entouré de ses moutons. Le spectacle de ce vaste univers que lui offrait le ciel nocturne était suffisant pour l'impressionner. Et quand il pensait au Dieu qui avait créé tout cela, je me demande à quel point il pouvait comprendre. Je n'essaie pas de rabaisser David, mais je me demande s'il a pu comprendre que toutes ces petites lumières brillantes là-haut correspondaient à autant de soleils comme le nôtre. Je ne sais pas si on savait cela à son époque. Peut-être que oui, en partie, mais on ne pouvait certainement pas savoir tout ce que nous savons aujourd'hui. Et pourtant, même à cette époque, il y avait une certaine conscience de Dieu, souvent des dieux païens, certes, mais en Israël, il y avait une conscience de Dieu, du vrai Dieu, et cette connaissance, David l'avait certainement. Cela dit, nous qui vivons actuellement, et qui voyons ce vaste univers, nous pensons que tout cela est le fruit du hasard, et nous prenons pour acquis jusqu'à la terre sous nos pieds. Mais cette terre sous nos pieds a dû être amenée à l'existence selon certaines lois. Tenez, et je l'ai déjà souligné à d'autres occasions, vous voyez ce lutrin? Il semble assez solide, n'est-ce pas? Et pourtant les scientifiques nous disent que ce n'est pas si compact, que c'est surtout fait de vide. On ne peut pas passer le doigt à travers, certes, mais cette matière est surtout composée de vide. Elle est faite d'atomes minuscules, eux-mêmes essentiellement composés de vide, et maintenus ensemble d'une certaine manière. Ainsi, vous avez l'impression d'être assis sur votre siège en ce moment, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous ne touchez pas vraiment ce siège. Vous pourriez alors répliquer, « Attendez une minute, je sais que je suis assis. » Soit, je ne m'obstinerai pas avec vous. Après tout, peut-être que ces scientifiques ne savent pas de quoi ils parlent, mais c'est pourtant bien ce qu'ils affirment. Selon eux, ce qui se passe, c'est que vos atomes se pressent contre les atomes de votre chaise, et que vous planez en quelque sorte au-dessus de votre siège, bien que très légèrement. Je sais que tout cela est difficile à comprendre pour nous. Cependant, les scientifiques ne sont pas totalement dépourvus de compréhension et de connaissances, et tout ce que cela montre, c'est à quel point l'univers est complexe et régi par des lois et des interactions. Si vous regardez le tableau périodique des éléments, également appelé tableau de Mendeleïev, vous apprendrez certaines choses à propos des atomes, notamment qu'ils sont constitués de protons et d'électrons, et que la combinaison de ces derniers déterminera ce qu'ils sont, soit de l'or, de l'argent ou de l'hydrogène. Toutes ces forces qui rassemblent les choses sont régies par des lois qui ont, à un moment donné, été créées et qui sont maintenues actives. Les scientifiques y croient. On parle beaucoup aujourd'hui du Big Bang, mais vous savez, cela implique qu'il a dû y avoir un début, ce qui, à son tour, nécessite que quelque chose ou quelqu'un l'ait provoqué. Quelle était cette cause? Il fut donc un temps où ça n'existait pas, et maintenant ça existe. Le berger dont nous parlions précédemment était destiné à un grand avenir. Il allait devenir un roi en Israël, mais il n'a jamais oublié ce sentiment d'émerveillement qu'il a éprouvé après avoir médité sur la grandeur de Dieu, ce qui l'a amené à voir sa propre insignifiance à un stade précoce de sa vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande certainement de lire cet article du Dr. Fall et de réfléchir à sa signification. Vous savez, il y a eu une autre occasion où David a certainement ressenti une admiration mêlée de crainte, et cela dans le psaume 139, un passage qui est très familier à la plupart d'entre nous. C'est certainement l'un de ceux sur lesquels je me suis concentré ces dernières années, ne serait-ce qu'en raison de ces études que j'ai menées à propos de la complexité de la vie. Tournons-nous donc vers psaume 139, où nous lirons les versets 13 à 15. Psaume 139, versets 13 à 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est Dieu qui est à l'origine des lois qui régissent le développement de notre corps. Nous commençons tous par deux cellules, la plus petite et la plus grande du corps humain, et ces cellules vont alors se transformer en 4, puis en 8, en 16, et ainsi de suite. Et certaines d'entre elles vont évoluer de sorte à former par exemple un rein, un poumon ou un foie. En ce qui concerne le rein, j'ai posé la question à un nombre de spécialistes, mais n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante qui expliquerait pourquoi le rein en arrive à avoir la forme qu'il a. Nous savons qu'à l'instar de tout organe, il va se développer. Ces cellules se reproduiront sans cesse, jusqu'à ce qu'une hormone, ou je ne sais quoi, vienne dire « stop », alors la croissance s'arrêtera. Mais pourquoi le rein a-t-il la forme qu'il a? Pourquoi le foie a-t-il la forme qu'il a? Pourquoi le cœur a-t-il la forme qu'il a? Quel est l'architecte de cette construction? Nous savons que c'est l'ADN. Mais, encore une fois, qu'est-ce qui leur fait adopter la forme et la structure qu'ils auront? Par ailleurs, pourquoi avons-nous deux narines et toutes ces autres caractéristiques du corps humain? David s'émerveillait en voyant toutes ces choses, et il était en admiration devant l'œuvre de Dieu. Dans cette même revue que j'ai citée tantôt, celle du Monde de demain de janvier-février 2021, il y a aussi cet article de moi à propos des trois piliers de la stabilité dans les moments difficiles. Dans cet article, j'ai mentionné deux de mes citations préférées. L'une est tirée d'un livre que j'ai déjà recommandé auparavant et que j'aime beaucoup. Il est de Michael Denton et a pour titre « Évolution, une théorie en crise ». Il est vrai que Denton a écrit un second livre sur le sujet quelques années plus tard et dont le titre est « Évolution, une théorie toujours en crise ». Mais M. Smith est d'accord avec moi pour dire que ce dernier est assez compliqué. Ne serait-ce que parce qu'il faut brasser beaucoup de choses avant de comprendre où il veut en venir, et c'est pourquoi je ne vous le recommanderai pas. Par contre, pour ce qui est de son premier livre, « Évolution, une théorie en crise », lequel a été écrit environ 30 ans plus tôt, et dont on pourrait penser qu'il est dépassé, eh bien, il n'en est pas moins d'actualité, et même encore plus de nos jours, selon moi. Dans mon article, j'avais donc fait une citation tirée de ce livre de Michael Denton. La voici. « Bien que les plus petites cellules bactériennes... » Mais laissez-moi vous le lire tel que cela figure à la page 250 de son livre, car je crois que mes notes à ce sujet risquent d'être incomplètes. À vrai dire, j'ai trouvé cette citation tellement importante que j'en ai souligné une partie et mis 3 étoiles à côté. La voici donc. « La biologie moléculaire... » a montré que même le plus simple de tous les systèmes vivants sur Terre aujourd'hui, les cellules bactériennes, sont des objets extrêmement complexes. Arrêtons-nous un instant. Il est ici question d'une cellule des plus simples. Or, les scientifiques ne nous ont-ils pas toujours dit que nous avons débuté comme une cellule simple qui s'est ensuite transformée en quelque chose de plus en plus complexe? Pourtant, ici, Denton déclare que même le système vivant le plus simple que nous trouvons sur Terre aujourd'hui, les cellules bactériennes, sont des objets extrêmement complexes. Il précise, et je cite, « Les plus petites cellules bactériennes sont incroyablement petites. Leur masse est inférieure à 10 exposant moins 12 grammes, ce qui veut dire qu'il en faudrait plus d'un million de millions pour faire un gramme. » Et il ajoute, « Malgré leur taille incroyablement petite, ces cellules bactériennes n'en sont pas moins une véritable usine micro-miniaturisée, dotée d'une puissante machinerie moléculaire. » Entre parenthèses, ceci n'est pas une exagération, et il y a des évolutionnistes qui décrivent eux aussi la cellule comme une usine. Il existe même une vidéo à ce sujet, une vidéo dans laquelle on voit en arrière-plan une usine chimique pour montrer à quel point une telle cellule est complexe. Notez en passant que Michael Denton n'est plus un évolutionniste. Je ne sais pas s'il l'a jamais été, mais il ne l'est certainement pas à l'heure actuelle. Continuons de citer Denton. Notre cellule bactérienne est donc une usine micro-miniaturisée contenant des milliers de pièces de machinerie moléculaire complexe, toutes conçues de manière exquise. Et les évolutionnistes vont parler de machines moléculaires ou de machines à protéines qui fonctionnent, qui font des choses. Des machines composées de 100 000 millions d'atomes, donc bien plus compliquées que n'importe quelle machine construite par l'homme et absolument sans parallèle dans le monde inorganique. La plus simple des cellules bactériennes est donc bien plus compliquée que n'importe quelle machine jamais construite par l'homme. Fin de la citation. Et vous savez, Michael Denton n'est pas le seul à le dire. Plus les scientifiques examinent la cellule, plus ils voient à quel point elle est compliquée. Et pourtant, on veut nous faire croire qu'elle s'est formée toute seule. Bon, voyons maintenant ma deuxième citation. Une citation que je trouve aussi très intéressante. Elle est tirée du livre de Bill Bryson intitulé « The Body », en français « Une histoire du corps humain ». Je crois qu'il s'agit là du dernier livre qu'il a publié. Il est vrai qu'il en a publié un autre intitulé « A Short History of Nearly Everything », en français « Une histoire de tout, ou presque ». Mais, pour en revenir à celui sur le corps humain, M. Ames et moi en avons cité plusieurs extraits. C'est un livre assez épais, mais, dès le début, Bill Bryson se met à dire, et je l'ai mentionné dans mon article sur les trois piliers de la stabilité, « Peu importe avec quel soin vous assemblez les matériaux, vous ne créerez jamais un être humain. » Voilà un ardent évolutionniste. Et pourtant, il dit que vous ne créerez jamais un être humain. Poursuivons. Vous pourriez réunir tous les individus les plus intelligents qui sont en vie de nos jours, les doter de toutes nos connaissances actuelles, et ils ne seraient pas pour autant capables à eux tous de fabriquer la moindre cellule vivante. Pensez-y, frères et sœurs, les personnes les plus intelligentes du monde, munies de la somme de toutes nos connaissances, ne pourraient pas fabriquer la moindre cellule. Mais alors, comment se pourrait-il que tout cela ait pu apparaître? Cela dit, je sais que réfuter la validité de la théorie de l'évolution ne prouve pas pour autant l'existence de Dieu. Mais quelle alternative y a-t-il? Si nous n'avons pas évolué, s'il n'y a pas d'explication naturelle à notre existence ici-bas, alors ne devrait-on pas s'en remettre à une explication non naturelle, en l'occurrence surnaturelle? Notez tout ce que Salomon a étudié durant sa vie. Voyons-le dans 1 Rois chapitre 4, verset 32. 1 Rois chapitre 4, verset 32. Il a prononcé 3000 sentences. Voilà qui démarquait une personne de grande intelligence à cette époque-là. Aujourd'hui, si vous connaissez un grand nombre de faits épars, souvent des futilités, vous êtes considéré comme très brillant et intelligent. que vous soyez capable de tisser des liens entre eux ou de les insérer dans un contexte, cela importera peu. À nouveau, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Salomon était donc un compositeur, un musicien en quelque sorte. Verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il savait donc des choses au sujet des arbres, des plus grands jusqu'aux plus insignifiants. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Cela dit, pourquoi Dieu mentionne-t-il tout cela dans les Écritures? Vous savez, il y a sans doute un certain nombre de raisons pour lesquelles il le fait. Toujours est-il qu'il nous décrit ici Salomon comme une personne qui connaissait les choses qui l'entouraient. Lorsque vous considérez ces petits téléphones intelligents que nous avons aujourd'hui, nous comprenons évidemment que ce n'est pas le téléphone qui est intelligent, mais plutôt les êtres humains qui l'ont programmé, fabriqué et assemblé, car il n'est pas apparu tout seul, bien sûr. Il ne peut d'ailleurs pas non plus se répliquer comme le ferait une cellule. Malgré tout, nous parlons de lui comme d'un téléphone intelligent. Dans un autre ordre d'idées, parlons un peu de notre expérience avec le ciel étoilé. Je sais que, de nos jours, beaucoup de gens vivent dans des villes où il y a beaucoup de pollution lumineuse. De ce fait, nous ne voyons pas autant d'étoiles que ceux qui vivent à la campagne. Quand je me promène le soir, là où j'habite présentement, je peux voir Orion, la grande ours, la petite ours et Cassiopée, mais pas toutes les nuits. Quand j'étais jeune, je me souviens de ces nombreuses nuits où je contemplais les étoiles. Je pouvais alors voir la Voie lactée, alors que maintenant, de chez moi, en ville, on la voit à peine. Ce n'est pas étonnant qu'avec tous ces lampadaires et ces phares d'auto, on ne puisse plus voir la Voie lactée, qu'on ne puisse plus admirer ces myriades d'étoiles qui s'offraient à la vue de David, ce qui nous empêche du même coup de voir la beauté et les merveilles de Dieu. Il est vrai que celles-ci peuvent aussi être vues ailleurs. Par exemple, nous pouvons tout de même observer les lézards ou les écureuils qui sont dans notre cour. À propos écureuils, ma femme ne les aime pas particulièrement. Ils creusent un tas de trous dans notre pelouse et cela nous ennuie. Parfois, il nous arrive aussi de voir des serpents. L'été passé, j'ai même vu un serpent noir pour la toute première fois de ma vie. Un beau serpent noir, tout brillant. J'aurais bien aimé pouvoir l'admirer un peu plus longtemps, mais il semblait avoir peur de moi. Il y a tant de belles choses que Dieu a créées, et Salomon a étudié ces choses. Je trouve étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'intéressent à de telles choses, mais il y en a tout de même certains qui le font. Un soir, je regardais l'une de ces présentations de la BBC, où il était question de poissons de vase. Y en a-t-il parmi nous qui savent ce qu'est un poisson de vase? Bon, je vois qu'il y en a certains qui savent ce que c'est, mais pas beaucoup. Eh bien, ce sont des poissons qui peuvent vivre sur la terre ferme. Ils peuvent respirer par la peau et prendre de l'oxygène supplémentaire dans leur bouche, dans leurs branchies. Ils peuvent ainsi vivre une grande partie de leur vie hors de l'eau, dans des vasières, principalement en Asie, mais aussi ailleurs dans le monde. On en a dénombré jusqu'à une quarantaine d'espèces différentes. Ce sont vraiment des créatures étonnantes. Leurs nageoires sont rapprochées et celles du dessous sont attachées ensemble de manière à créer une suction, ce qui leur permet de grimper aux arbres. Ce sont des amphibiens et ils sont plutôt remarquables. Encore une fois, ils vivent dans des bancs de vase à proximité de l'océan. Ainsi, deux fois par jour, selon le cycle des marées, l'océan envahit leur habitat ou se retire. Il y a une espèce qui peut atteindre une longueur d'environ 30 cm, mais d'autres sont plus petits. On peut les observer et les voir creuser un trou dans la vase en se servant de leur bouche. Ils prendront alors une grosse bouchée de vase pour la recracher ailleurs. Et ils répéteront l'opération maintes fois jusqu'à créer un terrier en forme de J. Puis, Le mâle va se mettre à sauter, s'élever dans les airs et faire toutes sortes de gyrations, tout cela dans le but d'attirer une femelle qui voudra bien s'accoupler avec lui. S'il atteint son objectif, voilà qu'il descend dans le terrier où elle laissera échapper les œufs, ces œufs qu'il fécondera dans la partie en J, celle qui remonte. Ces œufs s'attacheront ensuite aux parois du terrier qui, dès lors, fonctionnera un peu comme une chasse d'eau. Il y a de l'air dans le terrier, mais il y a aussi de l'eau qui empêche l'air de s'échapper. La femelle ayant pondu les œufs s'en va, confiant au mâle la responsabilité de s'en occuper. Cela dit, ces œufs auront besoin d'oxygène. Or, il y a très peu d'oxygène dans ce terrier. Ce sera au mâle d'approvisionner le terrier en oxygène. Comment va-t-il procéder? Eh bien, il va alors sortir à la nage, attraper une bouffée d'air, puis revenir à la nage pour la ramener dans le terrier, et ainsi de suite. Maintenant, comment a-t-il su qu'il devait faire cela? Comment a-t-il su que ses œufs ne survivraient pas s'il ne les ravitaillait pas en air? Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, il lui faudra retirer tout l'air du terrier pour que celui-ci se fasse totalement envahir par l'eau. Là encore, c'est avec sa bouche, qui, entre parenthèses, est plutôt grande par rapport au reste de son corps, qu'il évacuera tout l'air du terrier, permettant ainsi à l'eau de revenir pour totalement inonder celui-ci. C'est alors que les œufs vont éclore et que les bébés pourront s'en aller à la nage et vivre. Pareil spectacle devrait nous remplir d'admiration pour Dieu. Bien sûr que tout cela n'est pas le fruit du hasard. On veut nous faire croire que ces processus ont évolué pour en arriver à cela au cours d'une période de temps qu'ils estiment à 15 millions d'années. Mon œil, ces petits êtres n'avaient pas l'intelligence pour développer ces mécanismes. Ils font ces choses parce qu'ils ont été programmés pour cela. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait, mais il a programmé cela en eux, tout comme il a programmé toute cellule pour que toutes ces différentes composantes fonctionnent en harmonie, comme s'il y avait un cerveau qui contrôlait tout cela. Si Dieu n'avait pas élaboré de tels programmes, comment nos poissons de vase auraient-ils pu survivre au cours de ces 15 millions d'années, selon eux, pendant lesquelles ils auraient graduellement développé les mécanismes permettant d'assurer leur survie? En réalité, ils auraient péri bien avant cela. Donc ils ne l'ont pas développé, ils ont été programmés ainsi au départ. Les partisans de la théorie de l'évolution considèrent le temps comme un allié, alors qu'en réalité, la longue période de temps sur laquelle ils s'appuient montre plutôt à quel point leurs idées ne tiennent pas debout. S'il fallait un temps aussi long pour développer les mécanismes nécessaires à la survie des espèces, aucune d'entre elles ne serait parvenue jusqu'à nous. Bon, considérons maintenant Proverbe chapitre 6, qui contient un passage qui nous est très familier. Certains ont des doutes quant à ce qu'il dit, mais en ce qui me concerne, j'y crois. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » On nous recommande donc d'apprendre quelque chose de cette humble fourmi. Je ne sais pas si vous connaissez les fourmis coupe-feuilles. Vous avez sûrement vu des photos d'elles. Ces fourmis vont couper une section de feuille avec leur mâchoire, fonctionnant comme une tronçonneuse et vibrant 1000 fois par seconde. Ce fragment de feuille, qui aura plusieurs fois leur poids, sera ensuite transporté jusqu'à leur fourmilière souterraine. Cela donnera lieu à un long convoi de fourmis similaires, toutes bien coordonnées. Nous avons là encore affaire à une créature remarquable. Laissez-moi vous lire ce que l'Université McGill, au Canada, écrit au sujet de ces colonies de fourmis coupe-feuilles. Je cite « Vous avez peut-être vu le spectacle impressionnant d'un convoi de fourmis coupe-feuilles formé de millions d'insectes transportant chacun une section de feuilles coupées. Soit dit en passant, une grande colonie peut facilement compter 8 millions de fourmis. Elles vont ainsi couper des sections de feuilles pour les ramener chez elles. Mais saviez-vous que les fourmis coupe-feuilles ne mangent pas vraiment les feuilles qu'elles récoltent? Non, et c'est surprenant. Mais alors se demandera-t-on, que vont-elles faire avec ces feuilles? Quel est le but de leur récolte? Notez aussi qu'une telle colonie peut pratiquement dépouiller un arbre en une seule journée. Elles sont très efficaces. Mais, encore une fois, elles ne mangeront pas ces feuilles. Ces feuilles seront utilisées à des fins d'agriculture. Je m'explique. Voyez-vous, alors arrivé à la fourmilière, les ouvrières mâchent les feuilles pour les transformer en compost qui sert à faire pousser un champignon. C'est de lui qu'elles se nourrissent. On peut dire que ce sont des agricultrices qui cultivent leur nourriture. Les fourmis coupe-feuilles utilisent donc les feuilles comme engrais pour faire pousser leur récolte de champignons. Oui, elles cultivent leur jardin de champignons en leur fournissant des feuilles fraîchement coupées, en les protégeant des parasites et des moisissures et en les débarrassant des matières en décomposition et des déchets. En retour, les champignons servent de source de nourriture aux larves des fourmis. Les fourmis sont si sensibles aux besoins des champignons qu'elles peuvent détecter comment ils réagissent à une certaine source de nourriture et changer en conséquence. Elles peuvent sentir ce qui se passe avec le champignon et le cultiver de manière à obtenir une bonne récolte. Cette relation symbiotique, une relation entre deux entités qui se soutiennent mutuellement, profite également de la présence d'une bactérie qui se développe sur le corps des fourmis. Laquelle bactérie sécrète des antimicrobiens que les fourmis utilisent pour protéger leurs champignons? Entre nous, combien de générations de fourmis a-t-il fallu pour qu'elles en arrivent à développer ces antimicrobiens pour protéger leurs cultures pour éviter qu'elles ne meurent toutes? Pour ce qui est des fourmis adultes, elles ne se nourrissent pas du champignon, mais tirent plutôt leurs nutriments de la sève des feuilles. Là encore, coup de théâtre, on apprend que des adultes plus petits font souvent de l'autostop sur les feuilles ramenées au nid. Chemin faisant, ils se nourriront de manière opportuniste de la sève de ces feuilles, tout en protégeant le porteur des mouches qui pourraient transporter des maladies nuisibles et pour vérifier que la feuille n'est pas contaminée par d'autres champignons. Pensez-y. C'est tout de même incroyable. Il est ici question de jeunes adultes, qui n'existent que depuis peu, et pourtant, ils savent déjà parfaitement quelle est la tâche qu'ils doivent accomplir. Comment est-ce possible? Comme le disait Salomon, elles n'ont pas de superviseur, pas de guide, mais elles se rassemblent toutes, savent ce que sont leurs tâches et ce qu'elles doivent faire, sans que personne n'ait à le leur dire. Elles sortent tout simplement du stade larvaire en sachant ce qu'elles doivent faire. Qu'elles soient des ouvrières, des mâles qui devront féconder la reine, ou la reine elle-même, à moins qu'elles ne soient ces petites fourmis qui montent sur les feuilles transportées par les plus grandes. Toutes savent ce qu'elles sont censées faire. Elles obtiennent des nutriments de la sève des feuilles, mais elles vérifient aussi qu'il n'y a pas de mauvais champignons et elles gardent les mouches à distance. Voyons aussi ce commentaire de l'Université de la Caroline du Nord. Le mutualisme est un type de relation symbiotique qui profite aux deux partenaires impliqués. Les fourmis coupe-feuilles découpent divers types de feuillage en morceaux. Elles ramènent ensuite ces feuilles coupées à leur colonie où elles broient la matière végétale. Elles vont ensuite inoculer les feuilles avec un champignon. Le champignon récolté est ensuite utilisé comme source de nourriture pour les fourmis de la colonie. Essentiellement pour les larves, pas pour les adultes. En dehors des humains, les fourmis coupe-feuilles sont la seule espèce capable de fabriquer sa propre nourriture. Pour protéger leur jardin de champignons, les fourmis coupe-feuilles comptent sur un type de bactérie qui vit sur leur peau et qui les aide à combattre des champignons nuisibles qui pourraient les envahir. Cette relation entre la fourmi coupe-feuille, le champignon et la bactérie est l'un des exemples les plus étonnants de mutualisme dans la nature. Vous savez, nous pourrions passer des jours à lire à propos de ces merveilles de la nature que sont les poissons de vase, les fourmis coupe-feuilles et autres créatures étonnantes. Êtes-vous en admiration devant Dieu et devant sa création? Quand je lis à propos de la cellule, par exemple, je suis absolument ébahi et me demande comment Dieu s'y est pris pour faire tout cela. Ce n'est pas seulement que la théorie de l'évolution est totalement incapable de l'expliquer, mais j'aimerais tant comprendre comment Dieu a pu concevoir toutes ces merveilles. Ainsi, créer un corps humain, ou celui de n'importe quelle créature, c'est tellement complexe. C'est bien au-delà de ce qu'une personne moyenne peut commencer à comprendre. Vous savez, je ne prétends pas être un expert en la matière, mais lorsque je lis certains ouvrages, je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent. Je peux tout au plus discerner l'esprit incroyable qui doit être en arrière de tout cela. Le problème, c'est que certains envisagent la connaissance comme une fin en soi. Voyez tous ces biologistes, ces microbiologistes, ces zoologistes, ces gens qui passent pour d'éminents scientifiques. Et beaucoup d'entre eux croient probablement en Dieu plus qu'ils ne veulent l'admettre. Et il y a eu des enquêtes à ce sujet. Cependant, il y en a tout de même beaucoup, comme Richard Dawkins et d'autres, qui ridiculisent l'idée même de Dieu. D'autres, comme Michael Ruse, vont cependant reconnaître que l'évolution s'apparente finalement à une religion. Vous avez là un adepte de la théorie de l'évolution, qui, entre parenthèses, est simultanément un philosophe, et qui est prêt à admettre que l'évolution est en réalité l'équivalent d'une religion. La connaissance en soi est merveilleuse, mais elle ne suffit pas, car il y a des gens qui voient ces choses et qui les étudient, mais cela ne change pas leur vie. Cela ne change pas leur façon de voir les choses. C'est en partie le problème qu'avait Salomon. Il avait toutes ses connaissances au sujet des arbres, des poissons, des oiseaux. Il connaissait leurs noms et probablement aussi leurs habitudes. Il pouvait reconnaître n'importe quel type d'arbre lorsqu'il marchait dans la forêt. Il y a des gens comme ça, des gens comme Salomon qui savent beaucoup de choses et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Mais dans le cas de Salomon, cela a-t-il produit de bons résultats? Qu'en est-il de ces scientifiques qui connaissent tant de choses? Il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous, et qui en savent beaucoup plus que nous sur certains sujets. Cependant, pour eux, ce n'est qu'un exercice intellectuel. Ils ne comprennent pas vraiment le plus important. Ils vont même parfois utiliser leurs connaissances pour tenter de réfuter l'existence de Dieu. Mais c'est lorsque Dieu fait partie de notre vie que la connaissance nous est profitable. Alors je vous pose la question, à quel point Dieu est-il réel pour vous? Ces choses qui vous entourent vous touchent-elles? Vous poussent-elles à considérer Dieu avec crainte et révérence? Êtes-vous émerveillé par ce qu'il a fait? Voyons Psaume chapitre 8, où se trouve un passage que Dr. Fall mentionnait dans son article. Psaume chapitre 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oui, Dieu a créé toutes ces créatures, toute cette biodiversité, et il nous donne la domination sur ces choses. Continuons. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 8. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Combien nous devrions donc être en admiration devant Dieu. Ce passage établit un contraste entre le Dieu éternel et l'homme temporaire. Il souligne à quel point Dieu est grand. C'est pourquoi David avait dit au verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Oui, pourquoi Dieu se préoccuperait-il de nous? Tant que nous ne serons pas capables d'établir un juste rapport entre Dieu et nous, nous ne pourrons pas avoir une relation appropriée avec lui. Ainsi, ceux qui se pensent si intelligents qu'ils n'ont pas besoin de Dieu ne peuvent pas avoir de relation avec lui. Il y a ceux qui sont imbus d'eux-mêmes à cause de leur savoir, mais ce sont ceux qui s'humilient, qui ont le cœur contrit, qui reconnaissent leurs défauts et sont prêts à s'en repentir, ceux qui éprouvent une crainte respectueuse envers Dieu, ce sont ceux-là qui seront finalement dans la famille de Dieu. Cela dit, on peut dire de nous que nous faisons en quelque sorte déjà partie de la famille de Dieu à l'état embryonnaire. Voyons aussi Ésaïe chapitre 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà ce que dit notre Dieu qui habite l'éternité. Ma femme m'a posé une question ce matin. Une question que je me pose tout le temps, une question qu'il m'arrive parfois de porter devant Dieu. J'en suis finalement arrivé au point où il me faut reconnaître que je n'en connais pas la réponse, que je ne la connaîtrai probablement jamais avant l'avènement du royaume de Dieu, mais je pense qu'alors nous comprendrons. Intellectuellement, nous pouvons peut-être conceptualiser ce que c'est que de vivre sans cesse à partir de maintenant, mais il nous est plus difficile de penser à ce qu'a pu être l'éternité passée. En d'autres termes, qu'a fait Dieu avant de créer l'univers? De toute évidence, il y a eu un moment où il l'a créé. Mais qu'a-t-il fait avant cela? Et avant cela? Et avant? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Oh, j'ai entendu des gens s'efforcer de donner des réponses. Mais ces réponses ne me satisfont pas. Une chose est sûre. Notre vie actuelle est éphémère, limité dans le temps et dans l'espace, tandis que de telles limites n'affectent pas Dieu. Cela nous dépasse, certes. C'est pourquoi nous convenons de dire que Dieu vit en dehors de l'espace-temps, même si cela peut nous paraître un peu flou. J'avoue que c'est flou en ce qui me concerne. Par contre, ce que je sais, pour avoir beaucoup étudié plusieurs choses depuis un certain temps, c'est que notre existence n'est pas un accident, le fruit d'un hasard aveugle. Mais la question demeure. Et Dieu, d'où vient-il? Pour la réponse, il nous faudra attendre. Pour l'or, je dois me contenter de ce que je peux voir et comprendre. Et s'il est une chose que je peux voir et comprendre, c'est que certaines choses qu'on nous dit de croire n'ont manifestement pas de sens. Il y a, par contre, beaucoup de preuves de l'existence de Dieu pour qui veut bien les examiner objectivement et en ayant parfois recours à la prière. Justement, on prie parfois à propos de quelque chose, mais comme notre mémoire est fragile, surtout lorsqu'on a atteint un certain âge, notre esprit s'égare, on ne sait plus ce qu'on cherchait. Ainsi, lorsque vous me demanderez lundi ce que j'ai abordé dans mon sermon d'aujourd'hui, il y a des chances que je ne m'en souviendrai plus. Il faudrait vraiment que je fasse un gros effort pour que ça me revienne. Suis-je le seul ici à vivre une telle situation? À d'autres moments, une pensée va me venir à l'esprit, et je me dirai alors que ça irait bien avec le sermon que je suis en train de préparer. Mais comme je suis facilement distrait, voilà qu'elle me sort de la mémoire. Lorsque je me mets alors à prier pour qu'elle me revienne, parfois Dieu répondra presque instantanément, mais si je m'abstiens de prier, elle ne reviendra pas toujours. Combien de fois, en 50 ans, ne me suis-je pas mis à genoux pour demander à Dieu de me montrer ce qu'il serait bon d'aborder dans le sermon de cette semaine? Lorsque j'en étais à mes débuts dans le ministère, nous devions généralement parler un peu plus souvent que maintenant. Tout d'abord, il nous fallait préparer un nouveau sermon chaque semaine et le donner à tour de rôle aux deux congrégations qui nous étaient assignées pour le sabbat. En plus, on devait encore tenir une étude biblique durant la semaine, sans oublier le club d'orateurs dont nous avions également la charge. Pas étonnant donc qu'il nous fallait alors nous en remettre à Dieu pour qu'il nous guide et nous inspire dans les choix à faire. Et Dieu répond à de telles prières. Puisque nous parlons de réponse à nos prières, la semaine dernière, M. Hernandez nous a parlé de deux guérisons absolument remarquables, inexplicables, qui eurent lieu en Amérique du Sud. Et alors que nous en discutions, je lui ai mentionné que Dieu guérit habituellement les gens qui sont tout nouveaux parmi nous ou qui sont isolés et loin de tout. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous guérit pas, nous aussi, car nous savons qu'il nous guérit. En fait, nous avons probablement oublié toutes les fois qu'il nous a guéris. Mais je voulais ici parler de ces guérisons spectaculaires, instantanées, et qui défient toute explication rationnelle. Nous en avons sûrement connu, mais nous les avons oubliés. Un de nos pasteurs dans l'Ouest avait l'habitude de tenir une chronique de tous les miracles que Dieu accomplissait. À une certaine époque, lui et sa famille vivaient à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Lorsque vint pour eux le moment de se rendre à la fête, sa femme avait, pour la circonstance, préparé beaucoup de nourriture en conserve, et il transportait tout cela dans une petite maison mobile en arrière de l'auto. Arrivé à la frontière, on leur avait demandé s'ils transportaient certaines choses en particulier, et inconsciemment, ils avaient répondu que non. Les douaniers s'étaient alors mis à fouiller la remorque, sans rien trouver qui aurait pu être compromettant. Peu après, soudainement, la femme eut une vive frayeur. Elle venait de se souvenir de ces conserves qu'elle transportait dans la remorque. Bien sûr, ils n'auraient pas répondu comme ils l'avaient fait, s'ils n'avaient pas eu ce blanc de mémoire. Cela vous montre comment Dieu agit parfois pour nous éviter des désagréments. Et puis, je me souviens de cet autre incident qui était arrivé à l'un de nos membres dont la voiture était tombée en panne au beau milieu d'une voie ferrée. C'est effectivement arrivé à une famille du Michigan. Une autre famille suivait derrière eux. La voie ferrée était légèrement en pente et un train arrivait. Soudain, la voiture se dégagea, ce qui fit dire aux occupants de l'autre « Ouf, une bonne chose que vous ayez pu remettre l'auto en marche !» et les autres de répondre « Mais non, nous n'y sommes pour rien, nous avons rien fait !» Vous n'êtes pas obligé de croire ces choses. Je le crois parce que je connais celui qui me l'a rapporté et je le sais digne de confiance. Vous savez, il y a un Dieu dans le ciel et nous devons nous souvenir de ces choses. 1 Pierre chapitre 5 nous dit que Dieu tourne ses regards vers les humbles, vers ceux qui reconnaissent que Dieu existe et qui s'humilieront devant lui et éprouveront une crainte respectueuse à son égard. Voyons-le. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut en effet de l'humilité pour reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Quand on considère certains de nos dirigeants dans le monde d'aujourd'hui, on peut se demander s'ils croient vraiment qu'il y a un Dieu, en juger par leurs actions et leurs comportements. À nouveau, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il nous faut comprendre que si nous nous humilions, c'est Dieu qui nous élèvera au moment convenable. Et pourtant, combien d'hommes, au fil du temps, ont été offusqués lorsqu'ils n'ont pas été exaltés au moment où ils pensaient devoir l'être. C'est incroyable à quel point nous sommes impatients en tant qu'êtres humains, et on peut alors se demander si ces gens croient vraiment que Dieu existe. Croient-ils réellement que Dieu est celui qui peut leur accorder d'être honoré, d'être exalté au temps convenable? Ils croient peut-être en Dieu, mais croient-ils vraiment en celui qui contrôle toutes choses? Notez que Paul reprend les paroles de David contenues dans Psaume chapitre 8 lorsqu'il expose à son tour le but de la vie dans Hébreux chapitre 2. Et l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de tout cela, c'est qu'il nous faut d'abord acquérir une saine perspective de la grandeur et de la réalité de Dieu avant d'en arriver à comprendre le but et le sens de la vie. Pensez-y et méditez là-dessus. À quel point Dieu est-il réel pour vous? Dans quelle mesure êtes-vous en admiration devant votre Créateur? Bon, que signifie tout cela pour vous et pour moi? Eh bien, tournons-nous vers ce que l'on appelle la prière modèle. Vers Matthieu chapitre 6. Notez que Matthieu ne commence pas avec une série de requêtes du genre « Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, il y commence par se concentrer sur Dieu en tant que notre Père céleste. Voyons-le. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Ainsi, nous levons les yeux vers Dieu comme notre Père céleste, comme celui qui nous a engendrés par son Esprit. Il nous a donné un peu de cet Esprit pour se connecter à l'Esprit qui est en l'homme, afin de nous changer et de nous transformer. Que ton nom soit sanctifié. Son nom doit donc être vénéré et utilisé avec discernement. Verset 10. Que ton règne vienne. Oui, nous avons hâte qu'il vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cet échantillon de prière que nous avons dans Matthieu chapitre 6 concentre donc notre esprit tout d'abord sur Dieu, sa volonté et son plan global pour nous qui avons le potentiel de naître un jour dans son royaume. Tout cela concentre donc notre esprit sur Dieu. C'est pourquoi l'article de Dr. Fall est si important, car il nous enseigne toute l'importance d'avoir une crainte respectueuse et une admiration pour notre Dieu. Cela prépare le terrain pour tout ce qui suit. À nouveau, dans quelle mesure croyons-nous en Dieu? Dans son article, le Dr. Fall cite le Dr. Summer Allen, disant « La crainte peut nous empêcher de ruminer, de penser à nos problèmes et aux facteurs de stress quotidiens. Au lieu de cela, la crainte semble nous sortir de nous-mêmes pour que nous nous sentions immergés dans notre environnement et dans le monde en général, ce qui peut contribuer à nous inspirer de la générosité et un sentiment de connexion avec autrui. Lorsque nous tournons nos yeux vers Dieu, avec crainte et révérence, cela nous prépare le terrain pour d'autres choses qui suivront. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la prière modèle de Jésus attire notre attention sur notre grand Dieu et ce plan merveilleux qu'il a pour nous. Il veut que nous pensions au-delà de la réalité présente, pour acquérir une vision plus large des choses. Lorsque les temps sont durs, comme ils le sont pour certains d'entre nous qui ont connu de très grandes épreuves cette année, et même avant, lorsque les temps sont durs, il est utile d'avoir une vision d'ensemble. Pardonnez-moi si je vous dis cela d'une manière aussi crue, mais vous le savez, vous allez tous mourir un jour ou l'autre. Je déteste vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais il est un fait que vous allez mourir tôt ou tard, et moi aussi. Mais nous croyons qu'il y a autre chose à l'avenir. Nous croyons qu'il existe un Dieu qui contrôle toutes choses. Nous croyons que Dieu nous aime et que, en autant que nous restions proches de lui, rien de ce qui nous arrive échappe à son contrôle. Il est au courant de tout. Ainsi, lorsque nous traversons des épreuves, qu'elles viennent de lui ou qu'il permette qu'elles nous arrivent, Dieu nous les envoie pour notre bénéfice et pour notre bien. Réjouissons-nous donc dans nos épreuves. Je sais que ce n'est pas facile, mais si nous ne pouvons pas nous réjouir de nos épreuves, pouvons-nous vraiment dire que nous croyons que Dieu est en charge? Considérons-nous vraiment Dieu comme cet être tout-puissant qui a tout sous son contrôle et qui peut s'occuper de n'importe quel problème que vous ou moi avons? Vous savez que la Pâque est proche. Elle nous arrive une fois l'an et nous sommes alors appelés à nous examiner. On ne s'y reportera pas, car vous aurez maintes fois l'occasion de le faire au cours des semaines à venir. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 23 à 31, il est question de la façon dont les Corinthiens observaient la Pâque. Il y est dit que certains d'entre eux étaient gloutons, d'autres s'enivraient. Manifestement, ils n'avaient pas une bonne compréhension de la signification de la Pâque, et c'est pourquoi Paul a dû leur enseigner la signification de cette célébration. Il leur a rappelé qu'ils devaient s'auto-examiner et que si certains parmi eux étaient malades, voire morts, c'est parce qu'ils n'avaient pas appris à proprement discerner la signification du corps brisé de Christ. Ils n'avaient donc pas une vision claire du grand plan de Dieu, et c'est ce que je tiens à nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, à vous comme à moi. Il nous faut en effet comprendre qui est Dieu, ce que nous sommes, quel est son plan et quel est son but. Il se peut que nous n'ayons pas la réponse à toute question, notamment pourquoi nous traversons telle ou telle épreuve, mais sachez qu'il s'en occupera, qu'il travaillera avec nous et qu'il nous fera passer au travers. Tournons-nous maintenant vers 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. Un passage approprié pour qui veut se préparer pour la Pâque, même s'il peut aussi bien s'appliquer à toutes les époques de l'année. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Oui, son Esprit qui est en nous travaille avec nous. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Il nous faut donc nous examiner. Souvent les gens me demandent « Quelle est votre écriture préférée ?» Savez-vous, je n'ai jamais été capable de répondre à cette question. Mais ce matin, après toutes ces années, je crois avoir enfin trouvé la réponse. Bien sûr, comme vous, j'ai beaucoup d'écritures favorites. Mais, à y bien penser, il y en a une qui tranche parmi toutes les autres, et je ne l'avais jamais vue sous cet angle. La voici. C'est le verset 6 de Hébreux chapitre 11 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » N'est-ce pas une déclaration incroyablement chargée de sens? Ainsi, reconnaissez que vous êtes à présent des ambassadeurs du Christ, et ne vous laissez pas entraîner par la politique, le droit au port d'armes, ou des choses de ce genre, toutes ces choses vers lesquelles les gens de ce monde se laissent entraîner. C'est ce qui peut se produire lorsque nous perdons de vue le grand plan d'ensemble que Dieu a conçu pour nous. Connaissons notre Dieu. Et lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, ne tardons pas à agir. Nous essayons de prendre trop de choses en main. Nous vivons dans un monde qui est à la dérive. Ce monde nous offre bien des occasions de nous élever contre le péché qui y règne en maître. J'écoutais les nouvelles en venant ici. On y parlait d'un hôpital au Royaume-Uni où l'on avait proscrit l'expression « allaitement » ou « lait maternel » pour imposer l'expression « lait humain ». C'était, je suppose, dans l'intention de faire plaisir aux transgenres. Parle-t-on ici des hommes transgenres ou des femmes transgenres? Je ne saurais le dire. Tout cela m'apparaît tellement confus. Il est si facile de déchaîner des passions quand on ouvre la bouche. Ce n'est pas une simple question de s'exprimer d'une façon politiquement correcte. Cela correspond ni plus ni moins à un péché. Quant à moi, je refuserais de parler de lait humain. Je parlerai de lait maternel ou d'allaitement maternel. Je m'en tiendrai donc au terme d'autrefois. Je ne veux pas leur céder. Ne nous laissons pas entraîner dans leur politique qui prône la culture de l'annulation et tout le reste. Comme la sermonnette de tantôt nous le recommandait, évitons de nous laisser entraîner dans ces choses comme certains d'entre nous ont déjà commencé à le faire. Sans la foi, il est donc impossible de lui plaire. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles il est impossible de lui plaire est que si nous ne sommes pas disposés à mettre notre foi à l'épreuve, nous allons soit violer la loi de Dieu, soit manquer de faire les choses que nous devrions faire. J'ai maintenant eu plusieurs conversations avec certains de nos ministres qui m'informent qu'ils ont des membres dans leur congrégation qui travaillent, qui font régulièrement leurs courses, mais ils ne viendront pas au service sabbatique. Ils choisissent plutôt d'écouter en ligne. Vous savez, nous devons faire preuve d'équilibre dans tout cela. Il y a des gens dont l'état physique est tel qu'il est probablement sage qu'ils restent à l'écart pendant un certain temps, mais il viendra un moment où il nous faudra bien sortir de notre isolement. Simultanément, il y en a parmi nous qui, même s'ils sont vulnérables, assistent tout de même au service, et nous faisons de notre mieux pour assurer leur protection, en observant les règles de distanciation sociale et en portant des masques. Oui, nous nous efforçons de faire ce qu'il faut pour atténuer le risque de propagation de la pandémie. Nous allons aussi fréquemment nous laver les mains, mais comprenez bien que nous ne pourrons rester isolés éternellement. Cela dit, je suis d'accord qu'il revient à chacun de prendre cette décision pour lui-même, mais je me dis que si vous pouvez aller dans tous ces autres endroits, comme travailler ou faire des courses, alors ne serait-il pas temps, à un moment donné, de penser à revenir aux assemblées? Certes, au début de la pandémie, nous avions adopté une approche très prudente, car nous ne savions pas exactement à quoi nous avions affaire. Mais à mesure que les choses se précisaient, n'avons-nous pas commencé à nous réunir de nouveau? De même, après avoir considéré la dynamique de nos conversations, avant et après les services, et compte tenu du fait que nous portions des masques, n'avons-nous pas permis la reprise des chants, en modération bien sûr, et c'est ainsi que nous avons adopté la pratique d'un nombre restreint de chants, en attendant le jour où nous pourrons revenir à la normale, y compris l'abandon du masque. Il y a ces passages dans Deutéronome chapitre 28, au verset 22 et 60, où il est question de ces maladies graves et opiniâtres qui s'accrocheront à nous. Il est vrai que cela peut s'interpréter de différentes manières, mais se pourrait-il que ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus ne va pas totalement disparaître? Allons-nous alors nous cacher pour toujours? Nous savons qu'il y a un temps pour se cacher, et les Écritures en parlent, notamment dans Ésaïe 26, verset 20, où il est dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Nous devons donc être prudents, faire preuve de sagesse, mais nous devons aussi exercer notre foi, pas une foi déraisonnable. Bien que, pour un esprit charnel, la notion de foi n'a rien de raisonnable. Mais, tout de même, il faudra bien un jour avoir assez de foi pour sortir de l'ombre. À quel point Dieu est-il réel pour vous? Parce que cela déterminera notre façon de réagir aux événements, ainsi que les décisions que nous prendrons. Si nous croyons vraiment que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair, nous devrons nous montrer audacieux et courageux. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il nous est dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce et de rejeter tous nos soucis sur lui. Nous devons donc nous présenter hardiment en demandant à Dieu de nous protéger et de nous aider tant que nous faisons notre part. Reportons-nous maintenant à Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Y croyez-vous? Versets 6 à 8. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous lisons à propos de toutes ces interventions dans le passé, n'oublions jamais qu'il est encore aujourd'hui le même Jésus-Christ qu'il était alors. Approchons-nous donc hardiment de ce trône de grâce et implorons-le pour les choses dont nous avons besoin ou dont nous pensons avoir besoin. Imitons ainsi les hommes de foi mentionnés dans Hébreux chapitre 11, tout en étant conscients du fait que, parfois, Dieu va intervenir, mais parfois, il va aussi nous permettre de nous endormir, afin de nous préserver des ennuis qui se profilent à l'horizon. Mais ne l'oublions pas, Dieu est toujours maître de la situation. Nous allons au-devant de jours difficiles. Il y a deux sortes de personnes dans cette salle, moi y compris. Il y a ceux qui se tiendront avec Christ à son retour, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et certains d'entre nous feront de grandes choses d'ici là, des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Même certains de nos jeunes feront peut-être des choses incroyables, difficile de le savoir. Et puis, il y a les autres, ceux qui tomberont sur le bord du chemin, à la manière de ces Israélites d'antan, dont les corps tombèrent dans le désert entre la mer Rouge et la terre promise. Et pourquoi cela leur est-il arrivé? À cause de leur incrédulité, selon ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4 et chapitre 5. C'est parce que Dieu n'était pas réel pour eux. Ils n'étaient pas en admiration devant leur Créateur. Le groupe dont nous ferons partie dépendra essentiellement d'une chose. À quel point aurons-nous été pénétrés de la réalité de Dieu? Dieu ne vous a pas choisi pour être un perdant. Il ne vous a pas choisi pour échouer. Il vous a choisi pour réussir. Mais nous devons avoir la crainte de Dieu présente à l'esprit. Nous devons nous prouver que Dieu existe. Lisez notre brochure « Le Dieu réel, preuve et promesse ». Lisez aussi la brochure « Création » ou « Évolution », du moins lorsqu'elle aura été traduite. Certains d'entre vous aimeraient peut-être lire « Une histoire du corps humain » de Bill Bryson. Cela a été traduit en français. C'est assez intéressant de voir comment, dans son livre, Bill Bryson, un évolutionniste, va constamment parler d'un miracle après l'autre. En fait, il parle même du miracle de la vie, qu'il n'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, il y a aussi cet autre livre que j'ai mentionné plus tôt, « Évolution, une théorie en crise » de Michael Denton. Dieu nous a donc appelés pour être des vainqueurs, et nous devons lever les yeux vers lui avec une admiration mêlée de crainte. Demandons-lui de faire en sorte qu'il soit encore plus réel pour chacun d'entre nous.